Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Mégaphone, on vous propose d'écouter une table ronde animée la semaine dernière par Alexandra Jor dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture. Le sujet, les initiatives pour renforcer l'égalité femmes-hommes dans la culture. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue à toutes, en l'occurrence, essentiellement pour cette table ronde consacrée à l'égalité femmes-hommes dans la culture, puisque le secteur n'est pas épargné par les inégalités, que ce soit en termes d'artistes programmés, de personnes à la tête des structures, d'écarts salariales, la culture est touchée. Pour autant, il y a des actions qui sont mises en place et on va essayer de découvrir des initiatives assez concrètes portée par trois structures aujourd'hui. Je précise qu'il y aura un petit temps d'échange, de questions-réponses si vous souhaitez interagir à la fin de cette table ronde. Donc on commence tout de suite par les présentations et par le local avec vous, Chloé Nataf, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Donc vous représentez Trampolino, alors on va quand même présenter pour les invités qui ne seraient pas nantais. Donc Trampolino, c'est une structure qui accompagne l'émergence musicale sous tous ses aspects.
Tout à fait. Donc ça va être aussi bien c'est l'émergence musicale, qu'elle soit en pratique musicale avec une école de musique, mais également tous les porteurs de projets, musiciens et musiciennes, en voie de professionnalisation, amateurs ou professionnels.
Merci. À vos côtés, Aline Longqueux, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directrice d'Ecopia. Ecopia, c'est aussi de l'accompagnement, mais là on est sur un champ culturel, tout secteur confondu, très large.
Oui, c'est ça, toutes disciplines confondues. Donc on fait de l'accompagnement, du conseil et de la formation et on est basé notamment en Centre-Val de Loire, mais aussi sur Nantes depuis quelques années.
Donc Tours, Blois et Nantes en ancrage. Merci. Et pour finir, Stéphanie Gombarski.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous.
Bonjour, donc là on rebascule dans le champ musical, puisque vous représentez, vous êtes directrice de la Fédélima. La Fédélima, c'est la Fédération des lieux de musique actuels.
C'est ça, je ne suis pas directrice, moi c'est pas grave du tout, je travaille sur les questions d'égalité, de diversité et de pratiques artistiques et culturelles. Et la Fédélima est réunie 156 lieux et projets de musique actuelle en France. Et nos bureaux historiquement sont basés à Nantes. Voilà.
Voilà, et on va revenir dessus. Vous faites partie des structures qui ont une prise de conscience de l'importance des enjeux d'égalité femmes-hommes. Et j'aimerais qu'on commence par ça. À partir de quand vos structures respectives ont commencé à mouliner cette question, à prendre conscience et à la brasser? Comment ça s'est passé? Peut-être Stéphanie Gombarski, puisque vous avez la parole, vous pouvez.
Alors nous, c'était plutôt fin 2016, début 2017, comme dans toute structure ou associative ou réseau, il y a des instances d'échange sur quels sont les sujets de demain qu'on doit penser. Et en fait, la vraie question, c'est celle de la diversité qui est arrivée. Est-ce que les musiques actuelles qui se sont construites sur des cultures populaires, des fois sur des idées de contre-culture, qui se sont opposées aussi à des cultures plus institutionnalisées, sont toujours et aussi à l'image de la diversité de la société? Très sincèrement, on a intuité une petite réponse négative quand même, tant dans les équipes qui animent ces projets que dans le public qui est accueilli. Et donc il y avait cette idée de penser plus la diversité sous un angle plus partagé et aussi d'être toujours en lien avec la société actuelle. Et on ne savait pas comment faire. Très sincèrement, c'est un sujet vaste qui nous questionnait beaucoup. Par quel angle? Diversité sociale, diversité de classe, diversité de race, diversité. Et est arrivé aussi dans les politiques publiques et après MeToo, les enjeux d'égalité entre les... À l'époque, on disait femmes-hommes et puis plus entre l'égalité entre les genres. Et on s'est dit, bon, on va commencer par là. L'égalité entre les genres comme une première marche vers plus de diversité. Et c'est là où ça a été un élément de déclencheur. Comme tu disais, Alexandra, est vraiment une prise de conscience du chemin à parcourir qui est quand même assez violente au départ, hein, en 2017, quand on ne se pense pas comme ça et on pense qu'on a échappé à tout ça. Et il y avait un autre facteur, c'est qu'on sortait d'une étude sur l'emploi permanent dans les musiques actuelles. Et qui nous a très objectivement fait remonter des chiffres, où là, on a constaté d'énormes écarts de présence sur des métiers qui sont quand même, qui ont une forte valeur sociale dans les musiques actuelles, les métiers de direction, de programmation, les musiciennes et la technique. Et donc, ça corrélé à notre cheminement de conscience, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on y aille, quoi.
Donc là, on est en 2017-2018.
Tout à fait.
Ce qui correspond au démarrage de l'égalité femmes-hommes comme grande cause du quinquennat qui va être déclinée et portée par le ministère de la Culture. J'imagine que vous allez nous parler aussi de la jonction que vous avez fait avec les politiques publiques en la matière. Aline Longqueux, côté Ecopia, Centre-Val de Loire, comment s'est fait la prise de conscience et l'impulsion?
Alors je dirais que ça a été assez progressif et puis il y a eu en 2019 une commande qui a été faite sur une enquête sur le spectacle vivant en région Centre-Val de Loire pour mesurer où on en était de l'égalité sur cette discipline bien précise et dans notre région. Donc c'était très précis.
Et même constat que Stéphanie, direction, programmation, technique, artiste.
On n'est pas mieux qu'ailleurs.
Et en musique fait, et spectacle vivant.
Voilà, même musique, spectacle vivant. Nous, c'était ça regroupé justement, musique et spectacle vivant. Même constat hein, que sur les autres régions et que dans d'autres secteurs professionnels. En fait, ça a été le constat que, contrairement à beaucoup de croyances autour de notre secteur, voilà. Bon, maintenant, je pense qu'on a un peu dépassé ça.
D'autres.
Voilà. Oui. Donc, ça a été ce constat. Et puis, cette enquête a permis d'initier ensuite plusieurs dispositifs en région Centre-Val de Loire. Et donc, ça a été une prise de conscience aussi hein, pour beaucoup de professionnels, beaucoup d'artistes.
Voilà. Et là, en faisant. Donc, on va venir sur les actions que vous avez imaginées, déclinées, expérimentées en la matière. Mais pour compléter, Chloé Nataf, du côté de Trampolino, cette...
Alors, du côté de Trampo, c'est un peu pareil qu'à la Fédé Lima. Je pense qu'on a des instances aussi associatives. On voulait aller vers plus de diversité. Et c'est vrai que, naturellement, on est allé vers l'égalité de genre. Question un peu, on savait pas vraiment par quel bout commencer vraiment au début, et on s'est dit que pour s'en emparer, il fallait qu'on se forme en interne. Et on est une structure, on est 30 salariés à l'époque, on était un petit peu moins, mais voilà, pour qu'on ait tous des bases de langage également, des bases communes, parce que on mettait pas forcément les mêmes définitions derrière les mêmes mots, en fait.
Donc ça veut dire partager le combat, mais aussi travailler sur des notions. Par exemple, c'est quoi la non-mixité choisie? Pourquoi l'utiliser? Ça fait partie
et
des...
Alors oui, et même même à l'époque, on parlait peut-être même plus de discrimination positive, ce qui était le grand sujet. Je veux pas. C'est aussi des débats en interne, en équipe. Et on parlait pas encore de non-mixité choisie ou voire même de mixité non choisie. Enfin voilà, il y a plein de termes aussi qui sont apparus ces dernières années. Et du coup, le langage évolue avec les années et les débats auxquels on va participer.
Mais il y avait ce temps en interne d'appropriation.
Ouais.
Vous avez eu ces données qui sont remontées. J'imagine le phénomène MeToo aussi qui est arrivé jusque dans vos structures. Et puis après, un temps de formation, de réflexion interne pour pouvoir réfléchir et pas...
Bah déjà, s'acculturer. Ouais. S'acculturer, avoir des chiffres, voilà, un langage commun. Là, on est en 2018. Et puis après pouvoir se dire bon ben maintenant comment on fait pour que et en interne et vers l'extérieur on essaie de créer des leviers. Voilà.
Vous aussi Aline Longqueux, Stéphanie Gamborski, au niveau vous avez dû vous former vos équipes, vous outiller pour penser ces questions d'égalité femmes-hommes.
Oui, alors en effet, il y a eu beaucoup de temps comme l'a décrit Chloé d'acculturation. Avant même de la formation. La formation, je dirais que c'est plus récent. Alors nous, on a aussi développé des programmes de formation, puisqu'on est aussi organisme de formation, donc des programmes de formation pour les structures culturelles, sur tout ce qui est lié également aux engagements pris par le ministère de la Culture, mais aussi suite à des demandes de structures, de se former, d'avoir des offres structurées et sur notre territoire, puisque donc il n'y avait pas forcément, jusqu'à il y a très peu de temps en fait, d'offres structurées, de formations sur l'égalité femmes-hommes et également
qu'est-ce qu'on met dans une formation sur l'égalité femmes-hommes à destination de structures culturelles dans les grandes lignes.
Alors, on va à la fois sensibiliser, acculturer, comme l'a dit Chloé.
Ça veut dire quoi, acculturer?
Partir des termes, en fait. Pourquoi l'égalité? Voilà, les stéréotypes de genre. Enfin, voilà, on repart vraiment de tout ce qui est la base, en fait, des gender studies. Enfin, voilà, c'est sans aller dans trop piocher trop loin dans les sciences sociales. On n'est pas non plus à l'université, mais on va quand même poser des bases comme ça pour comprendre les théories, les fondements de pourquoi on en est là et qu'est-ce qui joue en fait dans les représentations de genre. Et puis, comment dans notre secteur, comment ça se matérialise?
On parlait sur les quatre métiers, notamment.
Il y a pas mal d'exemples à donner, hein. Donc assez vite. En fait, la bonne volonté souvent est quand même présente dans les structures. L'enjeu, c'est plutôt qu'est-ce qu'on met en œuvre et comment on le met en œuvre. Donc nous, on accompagne aussi sur la mise en place de protocoles contre les violences et harcèlement sexuel et sexiste. Et selon typologie de structure, oui. Et puis
sur les événements.
Voilà, selon la typologie de structure, on va toucher aussi des bénévoles, du public. Enfin, voilà, ça peut aller assez loin dans les parties prenantes qui vont être impliquées et du coup formées par ricochet ou directement. Enfin, voilà.
Au niveau de la Fédélima, comment ça se passe?
À notre endroit de fédération, on a travaillé avec nos adhérents sur des tables rondes, des débats, pour aller collectivement vers, comme tout le monde, une prise de conscience. Alors au début, dans les salles, il y avait beaucoup de femmes, très peu d'hommes. Après, ça s'est un peu équilibré. Et puis, on parlait de la programmation. Et puis, il faut juste, par exemple, se souvenir d'une ou de deux artistes féminines qu'on a programmées pour dire « Mais si, moi, je programme beaucoup de femmes ». Et là, on a une habitude aussi au sein de la fédération historique d'observer l'observation participative et partagée qui permet de faire remonter chaque année beaucoup de données de la part des adhérents sur leurs projets, leurs activités. Et donc, on a rajouté quelques critères. Par exemple, la place des femmes dans les associations. Est-ce qu'elles sont dans les gouvernances? Et si oui, à quelle fonction? Est-ce qu'elles sont administratrices ou présidentes? La place des femmes dans les équipes. Quel métier? Est-ce qu'elles sont cadres, pas cadres? Et ça a permis, comme pour tout le monde, même si c'est des passages des fois douloureux collectivement, mais d'objectiver un petit peu. En disant, le beaucoup, finalement, quand on le met à plat, c'est pas tant que ça. Ça reste aujourd'hui, donc en 22, 20% de musiciennes en moyenne. Et donc 20% versus 80%, le déséquilibre est encore là. Ça reste 30% de femmes dans les gouvernances associatives de 150 projets. Et ça a permis petit à petit de dire il y a un vrai sujet. On n'est pas dans quelque chose de fantasmé, on n'est pas dans quelque chose qu'on tire vers d'un côté parce que socialement il y a un sujet, en disant non, nos pratiques et nos postures professionnelles profondes, elles héritent de tout ça. Et maintenant on peut se dire on va travailler en démarche de progrès, on va travailler pour améliorer. Mais la première phase, ça a été ça, collectivement, de se dire il y a un vrai sujet, il est attesté par des chiffres qui ne racontent pas tout, parce que les chiffres ne racontent pas non plus le pourquoi. Ils nous disent mais maintenant, on est, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi? Et c'est un peu la deuxième phase, quoi, du débat. Enfin, du débat, pas de ce matin, mais collectif, en tout cas.
Alors justement, si on en vient aux actions que vous avez déclinées, que vous êtes en train de mener dans vos structures respectives, Stéphanie Comarski, par quoi est-ce que vous avez commencé, une fois passée cette phase d'évaluation, de constat partagé d'un vrai problème d'inégalité femmes-hommes?
Alors si on repart de la chronologie, je dirais 2017, 18, 19, là les chiffres, ça a été le dénombré, le vocabulaire, tout ça, ça a été une première grosse étape collective. Et après, à la faveur d'une aide du ministère de l'Égalité, on a, en 2018, développé une plateforme ressource. On sentait beaucoup de micro-initiatives qui ont toutes leurs valeurs, de l'exposition de sensibilisation aux artistes féminines, au parcours blind test pour sensibiliser le grand public, au projet beaucoup plus de fonds de formation des équipes, de collectifs, et on s'est dit il faut que on puisse, ces initiatives puissent s'inspirer mutuellement et inspirer d'autres personnes qui auraient envie de se lancer dans une action ou alors un grand projet sur plusieurs années.
Cette plateforme existe toujours?
Oui, elle s'appelle wah-egalite.org. Donc ça a été une première action. Et comme tous les réseaux, on échange aussi beaucoup entre nous. Et il y a la FELIN, la Fédération des labels indépendants, qui, en 2018, a proposé un premier dispositif de mentorat pour les entrepreneuses de l'industrie culturelle. Et ça a aussi inspiré plein d'autres initiatives, dont une que la Fédélima a portée autour du mentorat. Et pour agir en complémentarité, là, ça s'est positionné autour de personnes qui travaillent dans des projets collectifs d'intérêt général. Donc des personnes qui sont salariées, des femmes, pardon, qui sont salariées de festivals ou de structures de musique actuelle. Et on l'a centré sur les quatre métiers que je vous ai cités précédemment. Donc des femmes qui sont directrices ou qui un jour se projettent dans cette fonction. Idem sur la programmation pour les musiciennes et pour les techniciennes. Voilà.
Combien de femmes accompagnées?
C'est 28 femmes par an, 14 binômes sur une période de 12 mois.
Donc là, vous avez fait deux éditions?
On a fait deux éditions, oui.
Et ce sont des femmes qui sont mentorées par des femmes?
Tout à fait.
On est en non-mixité choisie?
On est en non-mixité, oui.
Alors, c'est un programme que vous avez testé, Aline Longqueux, aussi,
alors,
de près?
J'ai testé un programme féminin de mentorat, pas celui porté par la Fédélima où travaille Stéphanie, mais un autre qui est propre à la région Centre-Val-de-Loire, qui s'appelle Affranchi, et qui est développé par Métier Culture, qui est présent aujourd'hui aussi, représenté par Jean-Baptiste Replay. Et oui, c'est donc nous aussi un programme en non-mixité. Alors, on était un peu moins nombreuses. Nous, on était 12. La première édition s'est tenue en 2021. Et donc, moi, j'ai eu la chance de mentorer, si je puis dire, Mélissa Rouillon, qui est aujourd'hui à la tête d'une structure culturelle des Pays de la Loire, puisqu'elle travaille à Sarges-lès-le-Mans.
Alors, vous qui l'avez vécu, on va dire personnellement, en tant que mentor, qu'est-ce que ça apporte aux femmes, ces programmes de mentorat, en tant que professionnelles et bon, intimement, mais dans leur projection, dans leur capacité à se projeter?
Alors, de manière un peu subjective, ça apporte un réseau quand même très spécifique, donc seulement féminin. Donc, c'est vrai que c'est un peu inhabituel, puisque c'est pas vraiment ce qu'on pratique habituellement dans ce cadre professionnel. Donc, c'est un peu nouveau. C'est une nouvelle manière aussi de travailler ensemble, puisque donc c'est pas la même écoute, pas les mêmes attentions. On apprend à se connaître d'une autre manière. Moi, il y a beaucoup de mentors et de mentorées que je connaissais précédemment, mais pas du tout de la même manière.
Donc, je dirais que c'est le cadre de la non-mixité, aussi de l'écoute qui a été instaurée à la fois par le cadre et par ce choix de la non-mixité, qui permettait de faire émerger une parole, une confiance différente.
Complètement. Il y a eu beaucoup d'échanges sur nos pratiques professionnelles, à la fois aussi des choses qui sont parfois à la frontière du perso et du pro, mais de voilà comment on va en fait structurer sa carrière, tous les enjeux qui sont liés à sa carrière et qui souvent débordent dans la vie personnelle. Donc ça, c'est très important, oui, comme bulle, je dirais, d'échange et de partage. Et oui, ça a créé beaucoup de confiance, de développement de la confiance en soi, y compris pour les mentors, et puis d'envie d'agir, de développer de nouveaux projets autour de l'égalité. Donc on est plusieurs d'ailleurs à s'être alliés, y compris dans d'autres programmes de mentorat. Voilà, moi j'ai développé ensuite d'autres projets avec ma structure, avec d'autres personnes qui avaient suivi les programmes de mentorat de la Fédélima.
Oui, de suivre soi-même un programme comme ça donne envie d'essaimer derrière et de faire progresser. Qu'est-ce que vous avez mis, Stéphanie Gombarski, dans votre programme de mentorat pour les femmes?
Alors, d'abord, il y a un appel à participation aux femmes qui ont envie. Pour le nôtre, c'est du côté des mentors et des mentorés. Il y a une phase où on crée des binômes. sur beaucoup de... Alors, le questionnaire invite à s'exprimer sur l'envie, le pourquoi. On n'est pas, c'est pas du tout un cadre de recrutement ou de compétences. On est bien sur est-ce que c'est le bon moment pour une personne qui se pose des questions sur son parcours professionnel, de participer à une aventure collective et aussi à une aventure très forte avec une autre personne. C'est pas une histoire d'âge, c'est des personnes plus expérimentées qui vont accompagner des personnes plus jeunes dans leur expérience. Mais des fois, les âges sont inversés, c'est peu importe en fait. C'est juste une histoire de posture. Et après, donc il y a ces binômes, il y a un cadre hein, déontologique, il y a un cadre de confidentialité, il y a un cadre de valeur qui régit et qui permet aussi cette confiance et cette liberté de parole, sinon l'espace ne sert pas à grand-chose. Et chaque binôme va suivre son chemin pendant 12 mois, bien sûr encadré par toutes ces ça, et puis par une coordination. Et pendant ces 12 mois, on va aussi se retrouver 6 fois 2 jours, donc à 28, nous il y a 14 binômes, où là, ça va être des moments de travail sur les postures professionnelles, sur comprendre les inégalités dans la culture, réagir face au sexisme, comment on les dépasse. C'est aussi beaucoup d'échanges informels qui créent... Enfin, je rejoins la dimension qui est difficilement... comment dire, perceptible, mais qu'on connaît tous quand on est dans un réseau et qu'il y a de la convivialité, il y a des moments de vie, il y a des moments où là se dénouent aussi beaucoup de choses. Donc c'est cette vie de groupe aussi, c'est ce binôme très fort, mais cette vie de groupe pendant une période de 12 mois. 12 mois, c'est la durée du dispositif, mais il ne faut pas être dupe, ça continue et tant mieux, ça continue bien après et c'est ces relations-là qui participe à aussi de tout ce que a mentionné Aline sur la confiance, l'audace, la liberté. Et après 2 années, si c'est même très court en termes d'expérience, mais si dans une vie professionnelle on peut s'accorder 6 fois 2 jours sur une année pour retrouver tous ces moteurs-là, je pense que c'est déjà beaucoup en fait.
Donc en tout cas un programme qui pour vous a fait ses preuves dans le sens qui a porté ce que vous souhaitiez
qui a vocation à être. C'est très compliqué d'évaluer parce que qu'est-ce qu'on est, on évalue quoi ? Il y a quelque chose que toutes les participantes m'ont dit, c'est un accélérateur de prise de conscience, de réseau, de rencontre, de savoir qui on est personnellement, qui on est professionnellement. Il y a ce côté un peu énergie et accélération dans le cheminement personnel. Après, dans la vie d'une personne, c'est un élément parmi, je pense, tant d'autres. Des opportunités d'emploi extérieures, des mobilités personnelles, ça ne fait pas tout, mais ça peut participer.
Il me semble, moi je connais quelques mentors et mentorées du programme OA, et les personnes qui étaient mentors, à la base, elles postulaient comme mentorées. Ouais, le cas je trouve ça intéressant de se dire que du coup elle est passée mentor et finalement j'ai fait on s'est vu il y a très peu de temps avec cette personne là et elle me racontait je suis passée mentor mais finalement m'a autant mentorée que moi je l'ai mentorée aussi. Il y a quelque chose de très ping-pong également.
Pour aller aussi dans ton sens, à la fin de l'année, enfin des 12 mois, il y a plein de mentors qui me disent oh, « j'aimerais bien tellement être mentorée l'an prochain parce que j'aimerais bien aussi vivre la relation dans l'autre. » Après, c'est aussi la peur de finir ce genre d'espace qu'on a peu en fait dans nos vies professionnelles, ces bulles, comme tu dis aussi, d'énergie.
Chloé, au niveau de Trampolino, on parlera après parce que vous êtes sur des actions assez globales, une feuille de route, etc. Mais on évoquera le sujet après. Mais vous avez mené, alors c'est pas du mentorat, mais un summer camp pour dédier exclusivement à des femmes rappeuses. Ça a été une expérience.
Alors oui, mes collègues à l'action culturelle donc il y a eu 2 éditions du summer camp. C'est un projet de création. Un camp de 5 jours en non mixité pour des rappeuses amatrices du territoire et donc on a eu le soutien du Centre National de la Musique pour en termes de financement pour ce projet-là et l'idée c'est 12 rappeuses avec que des intervenantes pendant 5 jours qui vont créer, poser leurs textes, qui vont créer des morceaux et aussi performer potentiellement à la fin de la semaine. Donc, et là, c'est très riche parce que c'est vraiment 5 jours pleins. Il y a dans le rap, moi j'ai travaillé dans le rap il y a 15 ans. Personnellement, et j'étais directrice artistique dans le rap, et c'était vraiment, il y a 15 ans, c'était très masculin. Les rappeurs ne voulaient pas que je signe leur contrat parce qu'ils pensaient que j'étais la secrétaire du directeur de label. Et voilà, les choses ont quand même pas mal évolué, mais notamment pour les rappeuses. On va commencer par des open mic. Elles n'osaient pas monter sur scène parce qu'il n'y avait pas assez, elles se sentaient toutes seules. Donc là, ça, c'est une bulle, la non-mixité. Ça remue aussi beaucoup de choses. Donc cette année, mes collègues ont tous les soirs, elles débriefaient la journée. Ça pouvait remuer pas mal de choses, personnellement, professionnellement. Et cette année, il y a eu l'appui également d'une psychologue qui était là toute la semaine. Et on pouvait chacune, aussi bien les participantes que les intervenantes, bon, je suis également intervenante sur le summer camp, pouvaient faire appel à cette psychologue parce que pour dénouer quelque chose, pour dénouer aussi peut-être potentiellement quand on est 5 jours quasiment non-stop, des tensions avec d'autres participantes ou des intervenantes. Également. Et après, on n'a pas eu l'occasion d'utiliser ce levier-là, mais il y avait la possibilité de garde d'enfants également. Parce que c'est vrai que quand on est. Nous, on retrouve ça aussi dans nos actions à Trempeau, parce qu'on est centre de formation professionnelle. Quand on est mobilisé et qu'on a la charge de garde d'enfants, qu'on est mobilisé sur plusieurs jours ou qu'on souhaite faire une formation, on en organise à l'étranger, eh ben, on a beaucoup plus d'hommes qui participent parce que quand on part en masterclass à la Nouvelle-Orléans pendant 12 jours, bah, qui garde l'enfant ? Voilà. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais on doit travailler là-dessus. Donc là, il y avait cette possibilité-là également. Et ça a changé. Il y a la coordinatrice pédagogique du Summer Camp, c'est Pumpkin, et une rappeuse basée à Nantes. Et elle disait que ça a changé aussi, même le milieu du rap, en local, en fait. Et qu'il y a des collectifs de femmes rappeuses qui se sont constituées suite au premier summer camp. Enfin, voilà, il y a toute une.
Un essaimage.
Tout un réseau et un essaimage qui va se faire. Bon, là, on n'est que sur la deuxième année et on vient de faire le bilan de la deuxième année. Ça se travaille aussi sur le temps long. Mais en tout cas, c'est très positif à chaque fois.
Avec la sororité, c'est un mot qui est utilisé. Comment est-ce que vous le percevez ? Peut-être Aline Lonqueux, vous, dans votre expérience de mentor, par exemple, cette notion d'entraide féminine.
Oui, alors en effet, après, c'est un mot, alors on s'y retrouve ou pas. Moi, je trouve qu'il ne faut pas imposer trop de choses peut-être par rapport à ça. Moi, je me reconnais plus dans de la solidarité féminine. Voilà. Après,
pourquoi,
je crois que c'est assez personnel.
Vous faites
sororité, je trouve que ça va peut-être plus parler sur une sphère perso aussi. Voilà, après ça c'est des interprétations que chacune peut se faire. Moi j'ai ressenti plutôt une forme de solidarité, alors on peut appeler ça de la sororité, ça me va aussi hein. Voilà, et je trouve que cette solidarité, ce qui est assez fort et comme l'a évoqué Stéphanie, c'est que ça perdure. En effet, on a un peu de mal quand ça s'arrête, quand notre session se termine, on se dit « Ah, mais mince, c'est fini déjà. » Et en fait, voilà, là où il peut y avoir des fois un petit peu de peur sur l'engagement et le temps que ça va nous prendre au départ, parce que c'est toujours voilà, la question qui est posée aussi sur ce genre de dispositif. Hein. On sait que voilà, pour beaucoup, on a des temps de travail qui sont déjà bien, bien remplis et bien chargés. Donc, il y a la question de l'engagement, de à quel point on va trouver la place et le temps disponible pour participer. Mais comme l'a dit Stéphanie, c'est aussi un temps ressource. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, ça nous fait aussi prendre du temps pour nous et à la fois sur notre carrière, mais aussi pour nous. Et finalement, gagner du temps à d'autres moments, comme l'a expliqué aussi Stéphanie, là où ça peut être un accélérateur, en fait. Et c'est du temps aussi ressource où on va prendre un peu de recul sur ses pratiques professionnelles. Et ça, voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien.
Au niveau des copias, vous avez développé aussi une autre action, si on sort cette fois du mentorat ou de la création en non-mixité. C'est un programme d'incubateur. Vous portez un incubateur à Ecopia, mais là, un programme spécifique pour les femmes entrepreneurs dans la culture.
Oui, alors je dirais que c'est suite à la participation à Affranchi et puis à des équipes qui sont très impliquées sur les questions d'égalité de genre aussi. On a lancé ce dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat culturel féminin, donc un incubateur en mixité non choisie, qu'on vient juste de lancer là actuellement, qui s'appelle Essentiel. Et on a aussi produit un événement de lancement qui a eu lieu en septembre à Tours, qui s'appelait Il était temps, et c'est des rencontres autour du féminin dans la culture. Et là, ça a été créé avec deux autres collègues de Tours et d'Orléans qui ont participé au programme WA également. Donc en fait, c'est pour dire que c'est des suites aussi, des externalités positives, des suites de mentorat. Voilà, on a eu envie de créer ce temps fort de table ronde, débat, atelier autour du féminin dans la culture. Et qui s'est clôturé d'ailleurs avec des temps de pitch pour des femmes qui ont pu pitcher leurs initiatives, leurs projets, et puis des DJ sets féminins. Donc c'était vraiment focus sur la création féminine aussi. Et en fait, il y a eu énormément de public qui s'est mobilisé sur ce temps. On sent une grande attente en tout cas par rapport à ces sujets. Voilà, dans les différents réseaux culturels en général, puisque nous on est pluridisciplinaire, donc voilà.
Merci. Au niveau de la Fédélima, là vous allez poursuivre le mentorat, est-ce qu'il y a d'autres actions en cours ou à venir qui viennent travailler ces enjeux d'égalité femmes-hommes?
Oui, juste peut-être sur la question de la sororité, ce que moi j'ai observé aussi, c'est que alors, les participantes de WA, elles sont sur des projets collectifs, donc c'est aussi une des données. Mais l'idée, c'est aussi peut-être de penser comment porter des projets ou travailler autrement, d'une autre manière. Et là, ça impacte pas que les femmes dans la culture. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui nous disent, mais nous aussi, on aimerait peut-être sortir d'une verticalité de direction descendante, trouver des moyens de travailler plus en solidarité, plus en transversalité. Et c'est là-dessus aussi que c'est un des leviers que je trouve aussi intéressant, parce que c'est comment on pense sa relation à l'animation, au portage de projet, avec ce vécu et ce recul de, on sort un peu de la concurrence, de on peut aller vers l'entraide, on peut penser peut-être autrement. Et là, c'est peut-être un sujet de demain, mais de penser à comment diriger, gouverner, faire participer au projet d'une autre manière. Que des schémas
plus horizontal,
ou transversal, ou enfin voilà. Mais en tout cas, ça se questionne. C'est pas encore, on n'a pas toutes les solutions et c'est long. Mais ça en tout cas, ça a fait germer aussi ça dans les réflexions des participantes. Voilà. Et sur les autres projets cette année, alors ça émane aussi de WA. En 2021, printemps 2021, on lance l'appel pour la deuxième édition, appel de candidature. Et dans les mentorés, donc les femmes qui souhaitent se faire accompagner, je lis les candidatures et je découvre une première candidature d'une personne nommée en direction. Donc déjà nommée avec un jury, enfin voilà. Je me dis, tiens, elle s'est trompée de formulaire, je vais l'appeler, je vais lui dire de basculer dans l'autre formulaire. Une deuxième, une troisième, et je me dis, bon, bah là, il y a quelque chose. Et je regarde plus finement comment elles avaient exprimé leurs besoins. Et en fait, là, c'était assez intéressant parce que ces femmes donc, étaient en poste. Alors, c'était des premières expériences de direction et elles avaient pris leur poste au maximum 6 mois avant la période de confinement. Et elles exprimaient vraiment l'idée. Et puis, elles m'envoyaient un petit mail en disant « Désolée, je sais, je prends peut-être la place d'une personne qui en a plus besoin, mais vraiment, c'est mon endroit, je veux pas être mentor, je veux être mentorée. » Et je me suis dit « Bon, ce besoin-là, il raconte quelque chose. Ce fameux plafond de verre qu'on nous invite à briser tous les 4 matins, c'est pas ça, c'est pas juste ça la solution, en fait. »
puisque là, elles sont en poste, mais sur des premières expériences, elles invitent quand même à un besoin d'accompagnement sur leur prise de poste ou sur leur posture professionnelle, parce que se rejoue, par exemple, dans des co-directions, se rejoue... des co-directions mixtes peut se rejouer des phénomènes de domination, des conseils d'administration ou même avec l'équipe. Et donc là, à partir de ce besoin qui a surgi comme ça, un peu spontané, on leur a proposé pas de travailler sur un système de binôme, mais travailler sur un système de cercle. Donc ce sont 8 femmes. Où là vraiment on était plus sur la posture professionnelle. On a travaillé aussi sur les questions d'inégalité entre les genres, mais c'était de se dire comment en tant que femme nommée à la direction, je peux... alors, c'était des directrices, co-directrices ou coordinatrices générales qui exerçaient pour la première fois dans leur parcours professionnel ces fonctions dans les musiques actuelles. Et vraiment, leur questionnement, elle était aussi comment je dirige un projet ou co-dirige sans changer qui je suis, sans épouser les codes d'une prétendu format de direction qui émanerait de représentations collectives que peut vous renvoyer vos partenaires publics ou votre gouvernance ou même votre équipe des fois. Et c'était l'envie de ne pas épouser ces codes, de ne pas changer leur façon d'être, mais pour autant de répondre à leurs fonctions et de ne pas non plus subir, elles, de domination à leur endroit de travail, quoi. Et donc là, ça a été, on l'appelait WhatsApp, hein, pour continuer la blague, et un cercle de soutien professionnel, de solidarité et de sororité. Et pareil, on se voyait une fois tous les 2 mois, sur une période d'un an, et où on travaillait ces questions-là avec elles, par exemple.
Alors ça se pose pour les fonctions de direction, de co-direction, mais aussi justement sur toutes, enfin quand on a échangé avant par téléphone, toutes les femmes qui travaillent dans l'administration, dans la communication, qui sont des métiers peu considérés et sans lesquels, enfin souvent, fréquemment, peu considérés à leur juste valeur et sans lesquels les structures ne tourneraient pas, mais profession essentiellement féminine et avec peu de reconnaissance, ça, ce sont des enjeux qui restent à travailler aussi dans la culture.
Il y a aussi un vrai enjeu à considérer l'ensemble des métiers à leur juste place. Sur les métiers que tu viens de citer, Alexandra, chargée de com, chargée d'admin, il y a moins de disparités en termes de pourcentage hommes-femmes. Mais pour autant, c'est aussi des fonctions à réhabiliter dans leur place, dans un projet culturel. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes, mais ça ne fait pas tout non plus le nombre. En termes d'égalité, enfin, si on questionne l'égalité de traitement, ce n'est pas le nombre qui fait l'égalité, forcément.
Chloé Nataf, au niveau de Trampolino, vous, en interne d'abord, est-ce que vous avez justement travaillé ces questions? On va dire de direction, de fonction liée au genre.
Alors, suite à effectivement la formation, la culturation qu'on a fait à partir de 2017, alors il y avait une chose aussi, c'est que bon, moi je suis en charge plus spécifiquement de l'entrepreneuriat culturel et des projets européens. Et déjà dans les projets européens, j'avais une obligation
de parité.
Donc de parité à tous les niveaux, que ce soit dans le choix des artistes qui allaient participer à ces programmes, mais également dans les intervenants et intervenantes. Donc c'était déjà très présent dans l'ancienne programmation européenne et maintenant c'est obligatoire aussi sur les fonds européens. La diversité et l'égalité est obligatoire à intégrer automatiquement. Donc du coup, on avait déjà... donc après, c'est comment ne pas tomber dans la discrimination positive. C'était un grand questionnement et un grand débat en interne.
Alors pourquoi ? Il faut éviter la discrimination positive ?
Pas forcément. Après, je pense qu'on est en discrimination positive depuis des années par rapport à des hommes, entre guillemets. J'ai jamais eu à tomber, entre guillemets, dans la discrimination positive parce que, par expérience, quand on fait des appels à candidature, et moi je faisais des appels à candidature à échelle européenne, donc je reçois 180 dossiers, il y a beaucoup moins de femmes qui vont postuler. Mais quand elles postulent, elles savent qu'elles sont éligibles Et les dossiers sont beaucoup mieux remplis par expérience. Et donc, du coup, très naturellement, on a eu l'égalité et la parité sur les projets européens.
Quand on a préparé cette table ronde, vous avez mentionné, d'ailleurs, pour ne pas pouvoir éviter, en tout cas, ces pratiques de discrimination positive, pour reprendre votre vocabulaire, il y a une plateforme qui se monte
qui est déjà
Nantes.
Montée. Ouais. Je vois Solange qui est là. Effectivement, il y a une plateforme qui s'appelle Majeur, qui a un annuaire, enfin une plateforme de valorisation des talents féminins, qu'ils soient artistiques, professionnels. Et du coup qui permet bah, justement quand on cherche une intervenante ou une artiste et bien on peut trouver toutes les compétences et toutes les fiches sont très très bien détaillées en termes de bah voilà moi je peux intervenir là-dessus mon champ de compétences c'est ça et du coup c'est la valorisation de ces profils d'expertes, c'est important d'y avoir accès parce que effectivement avant moi j'avais déjà pu donc c'est porté par SheSaid et en l'occurrence SheSaid il y a un groupe Facebook qui existe quand tu cherchais quelqu'un, une femme pour une table ronde pour justement avoir la parité, bah tu faisais un post sur ce groupe là. Et souvent, on te répondait hyper, hyper rapidement pour justement trouver la bonne intervenante pour la bonne action.
Comment est-ce que vous êtes passé à Trampolino de cette parité à l'œuvre dans les projets européens, cahier des charges oblige, à une réflexion et à des actions qui portent sur l'ensemble des actions
sur l'ensemble des actions, c'est compliqué. Donc on fait beaucoup de choses très différentes. C'est un peu pôle par pôle et action par action. Donc déjà en interne, il y a eu un renouvellement de notre bureau associatif puisqu'on était en termes de gouvernance avec une prédominance masculine. Donc maintenant on est passé en parité avec une présidente. Ensuite, c'est pareil. Ça s'est fait assez naturellement, mais en interne, les cadres étaient des hommes, concrètement, pendant très longtemps. Et maintenant, on est en parité femmes-hommes au niveau des cadres. Ça, c'est en interne, et ce sont des choses qui se sont faites très naturellement. C'est sur des endroits. Il y a des endroits qui sont plus faciles. Donc, on a notamment signé le Key Change Pledge. Donc Key Change, c'est une plateforme européenne qui est portée par Impala, qui a un programme de mentorat également et de valorisation des femmes dans le milieu de la musique, artistes ou professionnelles, qui a lancé une dynamique de fixer des objectifs en tant que structure de parité, aussi bien donc à quels endroits. Où nous, on pouvait avoir un levier. Les endroits, ça va être les intervenants, intervenantes dans nos formations professionnelles, dans les tables rondes qu'on peut organiser. Moi, je m'occupe aussi du stage de structuration des Inouïs du Printemps de Bourges. Donc, c'est 53 artistes qui participent à 8 jours de formation. Trouver des intervenants, intervenantes en parité totale.
Donc les
jurys aussi. Et ça, ce sont des objectifs de se fixer sur quand même un court terme. Je vous avais dit quand on a préparé que c'était 2023, en fait c'est 2022, avec l'objectif d'arriver à 50% sur ces quatre champs-là.
Donc les intervenants, la programmation. Et les deux autres
intervenantes, programmation, les jurys.
Oui.
Les jurys. Et puis, intervenantes, c'est séparé en deux à moitié. Voilà. Et puis, les artistes sur les projets européens, chose qu'on ne peut pas faire sur les programmes d'accompagnement classiques qui sont liés à la programmation des festivals.
Et où là, vous n'avez pas la main.
On n'a pas la main, non.
Où est-ce que c'est le plus dur ? Alors, il y a cette programmation qui est liée au festival, mais pour la... Où est-ce que c'est le plus difficile à faire avancer sur ces...
Alors, je dirais que là, en fait, ça, c'était le plus facile. C'est le plus facile. Là où c'est le plus compliqué, ça va être sur notre activité de pratique amateur, voie de professionnalisation et les studios. où justement on est école de musique, on se rend compte que dans l'école de musique, en termes de pratique musicale, les femmes sont dominantes. Et puis à partir du moment où il faut basculer dans une vie professionnelle, eh bien là, elles lâchent et du coup, il n'y a plus de pratique professionnelle ou même amatrice d'adulte, je dirais.
Alors moi, j'avais cru comprendre que le basculement se faisait même avant, en discutant, c'est-à-dire collège, lycée surtout, où les femmes décrochent de la pratique artistique et qu'il y a un enjeu d'égalité à travailler en amont aussi dès cet âge-là.
Oui, là, effectivement, c'est vrai qu'on est vraiment plus sur le lycée. Où elle décroche. Et donc, comment on va essayer de travailler peut-être en non-mixité, enfin, là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire.
Donner confiance aux lycéennes pour former des groupes, des voilà, bandes, oser venir fréquenter les studios.
On imagine, je sais pas, faire un jour où les studios, il y a que des femmes. Après, c'est aussi l'accueil des femmes artistes qui, c'est vrai que nos équipes techniques sont entièrement masculines. Faut aussi réfléchir à cet accueil-là et trouver les bonnes personnes compétentes pour du coup accueillir en non-mixité, pourquoi pas. C'est là où il y a vraiment un gros champ, un gros territoire d'expérimentation à faire.
Stéphanie Gambarski, au niveau de la Fédélima, vous aussi, vous faites ce constat d'un champ d'action à investir?
Oui, on partage tout à fait ce que Chloé vient de dire. Après, c'est un travail de fond parce que c'est questionner aussi des postures. Qu'est-ce que les lieux renvoient peut-être comme image, les équipes qui les composent, pour que des femmes qui ont fait 10 ans de musique ne répètent pas dans ces endroits qui sont censés être ouverts à tous. Peut-être qu'elles répètent ailleurs, hein. C'était une des questions qui sont aussi à creuser en ce moment. Mais en tout cas, si on veut soutenir des parcours artistiques des femmes, il faut bien que dans les musiques actuelles, l'insertion professionnelle se fait par cette étape-là. Pratiquer en groupe, jouer dans des studios, participer à des repérages, des tremplins, se faire avoir des conseils. C'est tous ces moyens-là qui sont un peu l'antithèse de la théorie d'un talent qui nous tomberait dessus à la naissance. C'est des moyens de travail, c'est des rencontres, c'est des conseils. Et si les femmes ne peuvent pas partager au même niveau tout ça que les hommes, c'est sûr qu'elles seront moins dans le champ professionnel artistique. Mais c'est des postures aussi et des questions à travailler collectivement et qui demandent, je pense aussi, là, on est sur une autre phase de... Il y a une phase de conscientisation, il y a une grosse phase de formation, de sensibilisation qui est à l'œuvre. Et après, c'est comment chacun se bataille avec sa déconstruction personnelle, homme ou femme, parce qu'on est autant construite sur des mauvaises bases, même en tant que femme, hein, il ne faut pas se le cacher. Et du coup, c'est comment on se bataille avec ça pour faire un pas de côté et accepter de regarder nos relations les uns les unes aux autres différemment. Et je pense que là, moi j'ai l'impression que c'est cette phase-là qu'on vit un peu collectivement et qui n'est pas la plus simple.
Et là, vous avez évoqué quand même beaucoup d'actions qui vont être centrées sur les femmes pour la prise de confiance, le réseau, etc. Est-ce que des actions centrées sur les hommes, pour les hommes, sur la sensibilité, la sensibilisation à l'égalité femmes-hommes vous sembleraient pertinentes?
Après, je pense que Là, la table ronde, elle avait été choisie en non-mixité, mais concrètement, moi, c'est mon directeur qui a impulsé aussi des choses. Je pense que c'est important d'inclure, de sortir de la non-mixité sur plein de choses aussi. On avait fait... J'ai en tête... Ça n'a jamais eu lieu, mais on avait lancé une formation sur uniquement destinée aux femmes. Ça n'a jamais eu lieu parce qu'il n'y a pas eu assez d'inscrites, mais il y avait un module qui était la gestion du temps perso pro. Et pourquoi ce module-là ne serait que féminin, cette gestion, cette articulation temps de vie perso et temps de vie professionnelle, par exemple. Et d'autant que cette formation-là, il y a eu plein, faut tester, hein. On s'est planté plein de fois aussi. Du coup, cette formation qui n'était dédiée uniquement qu'aux femmes, d'empouvoirement féminin, etc. Donc on n'a jamais eu assez d'inscrites. Mais quand on appelait pour avoir des infos, bah, c'était mon collègue homme qui répondait. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Ça n'allait pas au-delà aussi. Donc il y a des articulations à trouver et des intitulés. Le temps de vie pro et le temps de vie perso et cette articulation-là, elle ne doit pas être que portée par les femmes. Enfin, du coup, il y a aussi ça. Même si c'est une problématique... Mais on pourrait imaginer plutôt des dispositifs en mixité, du coup.
Oui, moi, je veux bien réagir parce que donc on a lancé notre incubateur en septembre avec, je le disais tout à l'heure, un événement qui s'appelait « Il était temps ». Et c'était ouvert à tous. On a fortement communiqué sur le sujet, donc avec le sous-titre « Rencontre autour du féminin dans la culture », écrit partout, que c'était en mixité, etc. Or, il se trouve que notre public a été composé à 90% de femmes, et avec beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, à la fois de la part des hommes qui ne savaient pas s'ils avaient le droit de venir ou non, alors que la communication était très claire à ce sujet, et puis à la fois de la part des femmes qui ne comprenaient pas pourquoi finalement elles étaient les seules à s'emparer de ce sujet. Et en effet, on a aussi programmé un atelier vie pro, vie perso lors de ce temps, et avec des retours à la fois de dire oui, mais ça ne concerne pas que les femmes, mais oui, c'est ouvert aux hommes, mais sauf qu'ils n'étaient pas là. Donc c'est un grand sujet. Je pense que c'est la suite aussi de tous ces dispositifs, de toute cette sensibilisation. Je pense qu'en effet, il y a besoin aujourd'hui de trouver des moyens d'inclure les hommes et que les hommes se sentent accueillis aussi peut-être dans ces temps de parole autour de l'égalité, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'intéressés sur le sujet et que Il y a de la motivation, en tout cas, à venir participer sur ça.
Merci. Je vous propose, si vous avez des réactions, des questions, en tout cas, n'hésitez pas à lever la main, à venir prendre le micro si vous préférez.
En attendant qu'une première question se prépare, juste, c'est le Grand T à Lorient. Pardon, le Grand T à Nantes, je sais plus où je suis. Le Grand T à Nantes qui, en février-mars, je crois...
Un cycle sur les masculinités.
Oui, sur les masculinités, pour rejoindre la question. Et il commence à y avoir aussi des artistes qui portent des groupes de paroles sur la masculinité, destinés qu'à des hommes, parce que les injonctions, elles ne tombent pas que sur les femmes. Enfin, elles tombent aussi sur les hommes. Et certains ont aussi envie de sortir de ces injonctions-là. Et je pense effectivement que c'est très intéressant de travailler sur ces entrées-là. Et surtout aussi, l'égalité, c'est une histoire de société. Ce n'est pas qu'une histoire de femmes. Enfin, ce n'est pas les femmes qui doivent être plus égales. C'est vraiment un enjeu. Est-ce qu'on de vivre ensemble, pour moi, de vouloir vivre ensemble, qu'est-ce qu'on veut comme rapport entre nous au sein de, et travailler sur l'égalité, c'est travailler pour une société plus égale. Moi, je pense que c'est, l'enjeu final, il est vraiment là, sur cette mixité équitable, assumée et partagée. Quoi.
Et le croisement aussi avec les autres inégalités.
Alors là, c'est une autre table ronde. Hein.
Est-ce que quelqu'un sait ?
Je pense que, comme ce que disait aussi Chloé, je pense que les adhérents se questionnent. Enfin, c'est ça, c'est une question qui va en transversale dans leur pratique, que ce soit la programmation ou aussi la gouvernance. Et le Jardin Moderne à Rennes a fait une assemblée générale l'année dernière axée sur l'égalité au sens large du terme, avec des ateliers. Il y en avait un en non-mixité pour les hommes, mais avec avec l'ensemble de ses adhérents. Et ça a envoyé quand même des signaux forts aux Rennaises, en disant, tiens, cette structure-là, elle a mis cet enjeu-là de société quand même au cœur du projet. Et sa gouvernance a complètement changé. La gouvernance de l'AS. Parce que des personnes se sont senties accueillies dans la problématique. Même des personnes transgenres ont postulé au CA. Et en un an, le fait d'avoir revendiqué cette thématique-là comme un enjeu d'association, ça a envoyé des signaux qu'en tout cas, ils étaient prêts et prêtes à accueillir, travailler des personnes, avec des personnes qui se sentaient... Et leur gouvernance s'est complètement modifiée. Donc je pense que voilà, c'est des cheminements, hein, ils ne sont pas immédiats, mais en tout cas, quand les signaux sont là, je pense que c'est bien accueilli et que ça fait bouger aussi les lignes. Voilà.
Mais écoutez... Ah.
Moi, je veux bien répondre. Sur la non-mixité, il y a souvent quand même des endroits où ça peut accrocher, y compris avec des financeurs, parfois. Hein. Alors, en fait, moi, ce que j'aime bien répondre, c'est que la non-mixité, c'est pas une fin en soi et qu'on aimerait bien qu'il n'y ait pas besoin de dispositifs en non-mixité et qu'on espère que c'est pas pérennisable ad vitam aeternam, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas beaucoup avancé sur le chemin de l'égalité. Et donc en fait c'est un temps donné, c'est actuel, c'est un besoin, voilà, ça répond à des données, des statistiques, hein, c'est chiffré, voilà, il y a besoin de progression sur ces thématiques-là dans la culture, et qu'en fait on espère qu'un jour il y aura plus besoin de faire des dispositifs en non-mixité.
Sur le... pour être complètement sincère, je me suis posé moi-même les questions quand j'ai dû monter ce un parcours dans les musiques actuelles, sur des salles, sur de l'accompagnement et maintenant sur une fédération. Et j'ai beaucoup travaillé dans un milieu très masculin. Et au début, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec 28 femmes pendant un an, je m'embarque dans quoi ? Mais c'était ma déconstruction aussi à faire. Et je comprends maintenant quels en sont les ressorts de cet espace-là, qui est, je partage tout à fait ce que tu viens de dire, Aline. Et en termes de réticence, je trouve les plus durs, c'est sur la programmation. Quand on échange avec des programmateurs, c'est toujours cette histoire du talent. Je programme pas selon des critères, alors que si. Enfin, il y en a d'autres. Il y a une mixité esthétique, une mixité locale, pas locale, internationale. Et donc, non, moi, je choisis que sur l'artistique. Et donc, ça clôt la discussion. Je trouve que ça, c'est encore... Il y en a qui évoluent très vite là-dessus, mais d'autres non. Et c'est vraiment la barrière un peu systématique qui nous est renvoyée, cette histoire de... En tant que programmation, j'ai toute puissance sur le choix artistique et point barre. Et il n'y a pas de possibilité. Et on dit, mais vous savez, on en a vu aussi des groupes d'hommes pas très bons. Et bon, mais voilà. Je trouve que c'est encore l'endroit un petit peu de résistance.
Et après, aussi en toute transparence, avec une équipe de 30 personnes, des générations différentes aussi, le cheminement et la déconstruction et... Elle se fait sur une temporalité différente et du coup il peut y avoir quelques petits frottements en interne parce que les cheminements sont pas au même niveau en fait, parce que tout ça ça prend vraiment beaucoup de temps et même moi à titre personnel ça m'a pris un temps fou en fait aussi parce que je pensais que, par exemple, j'avais jamais vécu d'inégalité, parce que je m'étais jamais trop. Je me disais que j'avais eu de la chance, beaucoup, et voilà. Alors qu'en fait, j'ai fait ma déconstruction et je fais mon coming out. Non, moi aussi, j'ai subi de l'inégalité après 20 ans dans la musique. Donc voilà. Mais tout ça, c'est très très long. C'est vraiment un travail de fond à faire.
Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois. Merci à toutes et tous pour votre présence et votre attention. Bonne journée.
Merci.
Cette émission est maintenant terminée, vous pouvez la retrouver en podcast sur jetfm.fr. À suivre dans l'immédiat, 5 minutes de reportage avec Pensée Locale, le programme de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Bonne semaine.
Mégaphone.
le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie, économie sociale et solidaire
en pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
C'est une ancienne distillerie de cognac, c'est un bâtiment qui date de fin 1800, donc historiquement et au niveau patrimoine c'est quand même assez important. C'est un lieu qui était vide depuis 2013, d'où le but de faire revivre ce lieu magique.
Alexia, bénévole à la distillerie des Initiatives. Friche, industrielle ou bâtiment neuf, aujourd'hui, 3500 tiers-lieux sont référencés en France, dont presque un tiers dédié à la culture. Tiffaine et Alexia nous présentent la distillerie des Initiatives à Machecoul.
Comme un espèce de foyer pour tous, un lieu, un tiers-lieu, un lieu à part où on fait du lien.
Tiffaine, bénévole avec Alexia, commission communication.
C'est vrai qu'à Machecoul, on avait écho comme quoi ça manquait un petit peu. Donc c'est ce genre d'initiative qui peut justement remettre la culture en premier plan, et pas uniquement à Machecoul, mais aussi sur le territoire entièrement. La communauté des communes a donc acheté le bâtiment en 2013. Suite à cela, ils ont fait un appel d'offres auprès d'architectes. De là, ont été mises en place des réunions avec les habitants. Et ensuite, eh bien, on s'est dit pourquoi pas en faire justement un tiers-lieu avec vocation culturelle, sociale et économique. Et voilà, l'association s'est créée comme ça. On est ce qu'on appelle une association collégiale, donc avec que des coprésidents, à peu près, je crois que c'est 11 membres actifs. Et ensuite, bien sûr, ce sont des membres de soutien qui peuvent offrir de leur temps pour être bénévoles ou filer des coups de main ou même donner des idées tout simplement.
Parmi les membres du CA et parmi les membres actifs, il y a aussi beaucoup de porteurs de projets qui sont là avec une volonté notamment beaucoup culturelle en fait, de proposer des choses. Là par exemple, en ce moment, il y a une répétition de l'association Les Impromptus qui travaille à une répétition de danse, enfin d'irruption dansée.
L'État, via le ministère de la Cohésion des Territoires, apporte une aide financière, tandis que sur le terrain, les communautés de communes sont un appui pour les porteurs de projets.
Pour savoir comment fonctionner en tant que collectif horizontal, que chacun puisse trouver sa place, c'est pas évident du tout. Ça va pas de soi, il faut vraiment penser collectif pour être dans ce type d'association. La structure est pas évidente et on est vraiment en train d'y travailler.
Au début, c'est vrai qu'on avait très peu de moyens, donc la communauté des communes, par exemple, nous imprimer des affiches, enfin vraiment nous donner un coup de main. La mairie, on a un grand support de la mairie. Enfin, on bosse en fait tout ce qui est, par exemple, la charte, la gouvernance de l'association. Donc en fait, en petits groupes, ça soude le groupe aussi. Ça permet de définir vraiment les grandes lignes de l'association.
Et la question du salariat, par exemple, est en discussion. C'est pas d'actualité encore parce qu'on est pas assez organisé justement pour se permettre. Et puis il faut des fonds, des sous, venir de la guerre, des sous. Notre but, c'est de trouver un modèle économique qui puisse nous permettre de rémunérer les artistes tout en proposant des accès abordables à la population. Au niveau culturel, il y a des acteurs ici sur le territoire, il y en a. Et le but aussi, c'est de faire du lien avec tout ça, de faire des portes d'entrée et des passerelles entre tout le monde. L'association a été créée quoi, il y a un peu plus d'un an à peine.
Ouais.
Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, je suis arrivée à l'hiver dernier, mais j'ai l'impression que ça se construit toujours un peu plus.
Ouais, c'est ça. Je vais donner un exemple concret. On a des jeunes de Machecoul qui sont venus. Donc, on ouvre le café associatif tous les vendredis soirs. Et c'est vrai que souvent, on entend les jeunes, ils savent pas quoi faire. Et au détour d'une conversation, ils nous ont dit qu'ils rappaient, qu'ils faisaient du rap. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle des open mic jam sessions spéciales rap. Donc, c'est ça l'intérêt aussi pour la communauté de communes. C'est que ça occupe tout le monde, tout simplement. Et aussi, les personnes âgées qui se sentent seules ou qui elles ont un lieu pour partager, discuter. Voilà. En fait, on a beaucoup d'anciens qui viennent nous voir, des gens qui ont travaillé ici. Donc, ils sont, c'est bien ce que vous faites.
Souhaitons bon vent à ce tiers-lieu encore en construction. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour les contacter.
On a un site internet qui est en cours, voilà, comme l'association, la distillerie des initiatives. Tant qu'on n'a pas de concierge payé, on est ouvert uniquement le vendredi soir. Donc on ouvre le café associatif, donc c'est de 18h à minuit avec des animations régulières. Merci.
Merci.
À bientôt à la distillerie.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
C'était Valérie pour Jade FM.